compagnies aériennes. Nous sommes à Bruxelles, début 1830. Ville de province, entourée de prairies et de faubourgs, elle compte 98 000 habitants. Mais Bruxelles n'est pas encore cette ville que nous connaissons tous. C'est une époque où les journées sont souvent longues pour les ouvriers qui quittent leur campagne à l'aube pour venir y travailler et en reviennent parfois très tard en soirée. À cette époque aussi, beaucoup de personnes meurent sans avoir réellement voyagé. Les hommes d'affaires, eux, se déplacent en diligence. Les plus riches possèdent leur propre voiture. Berline, fiacre, vigilante, landau. Lorsque la Belgique devient officiellement indépendante, Bruxelles est choisie comme capitale. La ville se transforme alors, tout comme ce nouveau pays. En effet, en 1834, commencent les travaux de la première section de la toute première ligne de chemin de fer en Belgique. Une révolution. Mais pourquoi parler ici du train? Vous allez vite comprendre. Un an plus tard, le 5 mai, on inaugure cette route du fer entre Bruxelles et Malines en grande pompe. Le voyage inaugural est cependant un succès plutôt mitigé. En effet, le retour du train inaugural vers Bruxelles sera marqué par un retard mécanique de quelques heures. Les problèmes liés au train en Belgique ne datent donc pas d'hier. Qu'importe, cette ligne de train suscite l'émoi à Bruxelles et ailleurs, le succès est au rendez-vous. Vous souhaitez vous rendre à Malines en train ? Rendez-vous à la station de l'Allée Verte, établie le long du canal de Bruxelles, dans la section des faubourgs de Laeken, aujourd'hui Molenbeek-Saint-Jean. Très vite, les autorités locales commencent à s'interroger. Comment s'y rendre et surtout, comment en revenir? En ville, on croise sur la route des fiacres conduits par des cochers pouvant transporter plusieurs voyageurs au prix de 15 centimes par personne. On les appelle omnibus. En 1836, deux services d'omnibus sont proposés à la population. Ils ont pour direction l'Allée Verte, le premier partant de la Place Royale, le second de la Porte de Namur. Bruxelles voit alors apparaître ses premiers transports en commun officiels. En 1840, on compte déjà de nombreux itinéraires proposés aux voyageurs, menant tous vers la gare de l'Allée Verte. Différents noms de voitures apparaissent, le remorqueur, le progrès, la comète, la bruxelloise, sans oublier les omnibus diligence partant de la rue des Ursulines ou les Dames Blanches ayant leur terminus Porte de Halle. En parallèle, des lignes existent déjà reliant les faubourgs de Laeken, Jette et Boisfort. Et c'est une bonne nouvelle. La population des faubourgs de Bruxelles augmente, elle a donc besoin de se déplacer autrement qu'à pied, pour arriver à Bruxelles et sortir de la capitale. Dans la pratique, Bruxelles comporte une topographie marquée par de nombreux dénivelés et son réseau de transport n'est pas encore électrifié. Il faut donc faire appel à la force chevaline pour se déplacer tout en ménageant leur effort. Si sur un parcours plat, un ou deux chevaux suffisent, il en faut parfois quatre pour des trajets plus accidentés, le tout dépendant des voitures mises en service. Entre 1869 et 1874, les trois plus grosses compagnies de transport de l'époque marquent le quotidien des Bruxellois. Tout d'abord, la Belgian Street Railways and Omnibus Company Limited, ou Société Vaucans, qui exploite 7 lignes d'omnibus traditionnels dits de pavé. La compagnie brésilienne, qui exploite quelques lignes à travers Bruxelles. Et enfin, la compagnie Maurice, qui inaugure le 1er mai 1869 la première ligne de chemin de fer à traction chevaline entre la Porte de Namur et le Bois de la Cambre. La première ligne de tram à Bruxelles est donc mise en service. Mais qu'est-ce que ce mot « tram » ? L'origine du tram viendrait d'une expérience tentée par un industriel anglais, un certain Outram. Il imagine transporter sa farine sur une voie ferrée de plusieurs kilomètres de long. Un système qui porte ses fruits que l'on appela Outram's Way, qui devient bien vite Tram's Way pour finalement se modifier en tramway puis tram. Les voitures utilisées à cette occasion ne se désemplissent pas. Le confort du voyageur est grandement amélioré. Bruxelles possède donc déjà deux types de transport. De pavé, avec des omnibus traditionnels, et sur rail, avec plusieurs compagnies exploitant leur propre réseau. La population de l'époque a donc déjà le luxe de pouvoir choisir son moyen de transport sous différentes enseignes. Ce qui ne plaît pas spécialement aux autorités de la ville, qui examinent déjà un plan permettant de rassembler toute l'offre de transport en une seule entité. Après 5 années de vie commune sur le réseau bruxellois, il faudra l'intervention financière de Simon Philippard, homme d'affaires de l'époque, pour connaître le 1er janvier 1875 les tramways bruxellois, nés de la fusion des compagnies Maurice et Vaucans. En parallèle, la compagnie brésilienne des tramways et le tramway des faubourgs roulent encore indépendamment. Ces deux compagnies seront absorbées par les tramways bruxellois dans les années qui suivent. Avec un réseau de base de 5 lignes de tramway et 6 lignes d'omnibus de pavés, les tramways bruxellois possèdent désormais un matériel roulant composé de 26 omnibus de pavés provenant de la société Vaucans et 94 voitures de tramway. Mais ce matériel est amené à se moderniser et à s'agrandir, bien sûr. Différentes voitures plus modernes et ouvertes sont intégrées sur le réseau. Plus confortables et plus spacieuses que les véhicules alors en service, ces voitures ont un plancher bas, sont composées d'un châssis métallique, d'une première et d'une deuxième classe et peuvent accueillir une vingtaine de voyageurs. Plus tard, des coussins de velours rouge indiqueront la première classe. À chaque terminus, ceux-ci sont transférés d'un compartiment à l'autre, la première classe devant toujours se situer à l'arrière de la voiture. Mais les tramways bruxellois en profitent déjà pour tester de nouveaux moyens de locomotion, comme la traction à vapeur, sans succès malheureusement. C'est à partir de 1880 que le réseau se transforme réellement. Avec le rachat de la compagnie brésilienne de tramway, les tramways bruxellois étendent leur réseau. La jonction Rue Béliard-Port de Namur est réalisée, tout comme diverses modifications, comme par exemple la suppression des lignes d'omnibus reliant le point central à Saint-Jos, à la place du Congrès et à la place de la Duchesse. En 1882, 39 km de voies sont dédiées aux trams, 12 km pour les omnibus de pavés. Les dépôts hébergent 768 chevaux et déjà 245 voitures, dont 24 omnibus de pavés. En 1884, les rails en fer sont remplacés par des rails en acier. Faciles à poser, solides et stables, ils offrent une surface de roulement éliminant toute dureté. En 1890, fait particulier, un poste de contrôle est établi place Royale. L'endroit est central et est vite assailli par la clientèle de l'époque, qui réclame sur ce lieu stratégique du réseau, à la fois correspondance et terminus, un lieu pour s'abriter en cas d'intempérie. La ville refusant l'installation d'une aubette pour éviter un écart d'esthétisme avec la place, les tramways bruxellois imaginent un abri roulant. Comprenant une salle d'attente pour les voyageurs et un bureau pour le service de contrôle, cette voiture est amenée tous les matins sur place, y stationne toute la journée et rejoint chaque soir le dépôt de la rue Brognier. Inventif, n'est-ce pas ? En 1894, la mise en service des premiers tramways électriques à trolley voit le jour et porte ses fruits. Le 20 avril, trois motrices, alimentées par des câbles aériens, s'installent sur le tronçon de la ligne Nord-Midi et se partagent alors le service avec les tractions chevalines. Les transports en commun de Bruxelles se modernisent grâce à l'électricité. Pour que ces motrices puissent rouler, une centrale d'énergie électrique est aménagée rue Brognier. A l'origine, le personnel de la centrale est composé d'un chef machiniste, de deux machinistes, un de jour et un de nuit, de deux manœuvres pour l'entretien et la visite, d'un forgeron, d'un bobineur électricien et de six ajusteurs visiteurs. A l'époque, l'intégralité du réseau électrique flambant neuf des tramways bruxellois dépend donc de cette petite équipe. En 1897, les tramways bruxellois comptent pas moins de 102 motrices électriques. Ce chiffre ne fera qu'augmenter, avec notamment le rachat en 1899 de la Société du chemin de fer à voie étroite de Bruxelles à Ixelles-Boundal. Au début du XXe siècle, Bruxelles commence à obtenir ses lettres de noblesse et se classe parmi les villes les plus modernes de l'époque. Le développement de son réseau de transport, mélangeant pavés et fer électrifié, y est pour quelque chose. Il faut aussi repenser la question de l'alimentation électrique. Des grands travaux s'imposent dès 1903, comme l'inauguration de la nouvelle usine centrale, en grande pompe et en présence des autorités locales, et bien sûr du roi Léopold II. Le lendemain de son inauguration, les lignes qui empruntent les boulevards du centre deviennent électriques. Le matériel roulant subit aussi des transformations. Les voitures électriques à trolley sont renforcées du fait qu'elles transportent désormais deux petits moteurs. La suspension à ressort s'impose également comme élément indispensable de ces machines modernes. Les premières années du XXe siècle sont marquées par différents faits historiques, comme en 1906 lorsque le réseau atteint presque déjà 100 km de lignes électrifiées, ou lorsque les tramways bruxellois transportent plus de 3,5 millions de voyageurs à l'occasion de l'exposition universelle de 1910. Fin de l'année 1913, la direction des tramways bruxellois s'arrête sur une couleur pour l'aspect extérieur de ses motrices et de ses remorques. Bienvenue au jaune primorose. Diverses anecdotes viennent compléter l'histoire déjà bien remplie des tramways bruxellois, comme en 1911 où la police scarbécoise profite d'un omnibus fermé, prêté par la société de transport pour remplacer temporairement leur corps de garde et leur bureau, brûlé lors de l'incendie de l'hôtel communal de Scarbec. Ou cette histoire relatée dans le journal Le Soir, certifiant qu'un Wattman, ayant raté son tram qui devait le conduire au dépôt de Woluwe-Saint-Pierre afin de commencer son service, fut finalement conduit au dépôt par un automobiliste aux lunettes bleues qui n'était autre que le roi Albert. De l'évolution à l'innovation, l'histoire des tramways bruxellois deviendra plus sombre quand la Belgique rentrera en guerre. Nous sommes le 4 août 1914. Bruxelles et ses tramways n'imaginent pas encore ce que les 4 prochaines années leur réserveront. Vous avez écouté